Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on voit Paul, pendant un mois, dans la ville de Thessalonique, implanter une nouvelle église. Mais, à cause des persécutions, il doit fuir la ville. Quelque temps après, Timothée vient voir Paul et lui donne des nouvelles de cette église de Thessalonique. Alors, Paul leur écrit, et c'est la première lettre que Paul envoie aux églises. Cette lettre est animée par trois prières. La première prière, c'est une action de grâce. Il remercie Dieu pour leur foi, leur amour et leur espérance, malgré les persécutions. La deuxième prière, un peu plus loin dans l'épître, c'est pour leur endurance. Que Dieu fasse croître leur amour, leur sainteté et leur espérance dans le retour de Jésus, malgré les difficultés. Et la troisième prière, c'est pour l'espérance, pour que leur sainteté grandisse, afin qu'ils soient irréprochables pour se préparer pour le retour de Jésus. Et c'est dans cette même lettre qu'il nous encourage aujourd'hui, au chapitre 5, verset 17, à prier sans cesse. Et au verset 18, à exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Prier sans cesse. La prière, c'est le thème de mon message. Et comme la prière est une action que l'on est invité à pratiquer sans cesse, alors autant en savoir plus pour bien pratiquer. Il y a plusieurs types de prières. Alors, je vais en parler, mais je ne les ai pas classées par importance et je n'ai pas non plus essayé d'être exhaustif. Mais nous sommes invités à prier sans cesse et en fait, donc, nous passons en permanence d'un type de prière à l'autre. Il y a les prières de reconnaissance, de louange, d'adoration. Et nous venons de lire dans cet épître aux Thessaloniciens qu'ils étaient invités à être reconnaissants en toutes circonstances, y compris pendant la période de persécution. Persécution qu'ils vivaient dans l'attente et dans l'espérance du retour de Jésus. C'est vrai que c'est plus facile de louer Dieu quand tout va bien. Quand nous recevons les bonnes choses qu'il nous donne jour après jour, ou pour la beauté de sa création, pour son amour manifesté en Jésus. Et nous faisons bien de le louer pour ces bonnes choses. Mais nous sommes aussi invités à le louer lorsque c'est difficile. Comme ces Thessaloniciens, lorsqu'ils vivaient la persécution. Humainement, je dois vous dire que ce n'est pas facile de louer Dieu quand quelque chose ne va pas bien. Moi-même, je l'ai vécu par moments dans ma vie. C'est difficile. C'est pas spontané. Mais si vraiment nous avons cette espérance dans le royaume de Dieu, alors tout ce que nous vivons ici-bas n'est rien. Même la persécution, ou la maladie, ou toutes ces mauvaises choses qui nous arrivent au quotidien. Alors, un seul conseil, gardons les yeux tournés vers Jésus pour être reconnaissants en tout temps. Et c'est vrai que la Bible, les psaumes en particulier, nous aident à soutenir notre prière. Ils nous aident à louer Dieu. Et souvent, dans les psaumes, vous vous souvenez de Richard, le pasteur Richard qui nous a, pendant une année, fait des prédications sur ces belles paroles, sur les psaumes. Eh bien, dans les psaumes, souvent, nous lisons que le juste souffre alors que le méchant prospère. Mais un jour vient, le jour du Seigneur arrive où la justice est faite et le juste peut être délivré du mal alors que le méchant sera jugé. Donc, utilisons ces psaumes comme support de prière. Parfois, c'est vrai que nous prions quelques minutes et puis, au bout d'un moment, notre bouche se tarit, on ne sait plus quoi dire, mais utilisons la Bible, les psaumes et d'autres textes pour supporter, pour porter notre prière. Un autre type de prière, c'est l'intercession. L'intercession, c'est se mettre à la place de quelqu'un et de prier Dieu pour que Dieu intervienne dans la vie de cette personne. Et la meilleure intercession, nous le voyons à travers la personne de Jésus. Jésus qui est monté sur la, qui a été cloué sur la croix à notre place pour porter notre péché. Et qui aujourd'hui, il intercède auprès de Dieu pour nous, pour notre pardon. Le peuple d'Israël, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont fait le veau d'or. Et Dieu ne pouvait pas supporter un tel péché. Il était prêt à tous les exterminer. Heureusement, Moïse s'est levé comme intercesseur et il a prié Dieu pour que Dieu change d'avis. Et Dieu leur a pardonné. Vous pouvez lire ça dans Exode, chapitre 32. Je ferai souvent référence à des textes de la Bible. Je vous donnerai les références pour que, pourquoi pas, vous puissiez y jeter un coup d'œil en étant à la maison. Vous connaissez aussi cette histoire de David qui avait commis le péché avec l'adultère et le meurtre. Et Dieu a envoyé son prophète Nathan en disant « L'enfant que tu as eu de cet adultère mourra. » Et effectivement, l'enfant est tombé malade. David a prié 8 jours dans le jeûne pour intercéder pour son enfant, pour que Dieu change d'avis. Mais dans ce cas-là, Dieu n'a pas changé d'avis. L'enfant est mort. C'est parfois difficile. Pourquoi Dieu, pour les Israélites, il a changé d'avis, alors que pour l'enfant, il n'a pas changé d'avis. Mais notre intelligence étant limitée, on le disait ce matin à la réunion de prière, nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Vous vous souvenez aussi de Jésus qui a prié « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et en fait, Dieu est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, pour notre salut. Il ne pouvait pas changer d'avis. Et nous pouvons le remercier d'avoir tout accompli pour notre salut. Heureusement qu'il n'a pas changé d'avis. Voilà, donc ma prière d'intercession est-elle suffisamment intense pour que Dieu change d'avis lorsque je prie pour une personne qui est malade, par exemple? Mais ce n'est pas à moi d'en juger. Certains sont guéris et d'autres ne sont pas guéris. C'est par sa grâce. Un autre type de prière, c'est la prière de combat. C'est vrai que dans certaines périodes de la vie, il faut prendre position par les armes. L'Ancien Testament, on le critique souvent d'ailleurs pour ça. On dit « Ah, c'est plein d'histoires de guerre, c'est violent, il y a des morts partout. » Et c'est vrai. On se demande « Mais comment cette histoire si violente peut-elle refléter l'amour de Dieu ?» Mais en fait, cette histoire nous est donnée pour nous enseigner et pour nous inviter, non pas à prendre les armes physiques, à faire la guerre sainte, non, mais à faire la guerre spirituelle, à prendre les armes spirituelles. On a l'exemple dans Exode. Moïse a dû lutter contre le Pharaon pendant la période où l'Égypte subissait les plaies. Et à chaque fois qu'une plaie frappait l'Égypte, Moïse a demandé pardon et a demandé à Moïse de prier pour lui. Moïse a prié. Il a prié pour le Pharaon et l'Égypte, et à chaque fois, ils ont été délivrés. Mais dès que la délivrance était arrivée, le Pharaon s'est endurci. À la fin, à la 8e plaie, jusqu'à la 10e plaie, c'est Dieu même qui a endurci le cœur du Pharaon, parce que le Pharaon était allé trop loin. Et donc ça s'est conclu avec la mort du fils premier-né du Pharaon, la fin de son armée qui s'est noyée dans la mer Rouge. Et ainsi, la délivrance du peuple. Et pendant le voyage dans le désert, pendant la sortie d'Égypte, vous vous souvenez de cette histoire de la guerre contre Amalek ? Amalek était plus fort, mais dès que Moïse levait son bâton, c'est Israël qui était plus fort. Mais au bout de quelques heures, Moïse était fatigué. Et donc, il a été soutenu par Aaron et Hur pour que Josué remporte la victoire finale. On lit ça dans Exode, au chapitre 17. Jésus nous dit que certaines guérisons ne s'obtiennent que par le jeûne et la prière. On va lire ces quelques versets dans Marc 9, en particulier à partir du verset 17. C'est juste après la transfiguration. Un homme de la foule répondit : Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus leur répondit : Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Cette histoire me touche, car je me retrouve dans ce père qui a du mal à croire. Mais Jésus nous fait grâce. Malgré notre peu de foi, il vient au secours de notre incrédulité. Il intervient pour nous sauver, malgré notre manque de foi. Un autre exemple de combat, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne à utiliser toutes les armes spirituelles qu'il cite dans Éphésiens chapitre 6. Car, comme il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous connaissez ces versets, je ne vais pas insister. Parfois, nous prononçons des prières impossibles. Pourtant, nous les adressons à Dieu. Souvenez-vous, Jacques et Jean, ils ont demandé à être assis à la droite de Jésus. C'est dans Marc 10 et dans d'autres évangiles. Mais Jésus est obligé de les remettre à leur place. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Cela ne dépend pas de moi. » Par analogie, qui n'a pas entendu cette prière dans l'Église ?« Ah Seigneur, fais-moi gagner au loto et je te donnerai une partie de l'argent. » Mais n'oublions pas, tout l'argent et tout l'or appartiennent à Dieu. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous lui donnions de l'argent si jamais nous gagnons au loto, mais même si nous n'avons qu'une petite pièce d'argent dans notre poche, c'est ça qu'il attend de nous dans l'offrande. Il n'attend pas des millions. Il attend ce qui nous coûte, hein, ce qui représente un sacrifice de notre part. Alors que si je gagne des millions au loto, finalement, je peux bien lâcher 1 ou 2 millions si j'en gagne une centaine, n'est-ce pas ? Bref. Des prières donc impossibles. Il y a aussi des prières prophétiques. J'aime bien l'histoire du prophète Élisée. C'est dans 2 Rois, les chapitres 2 à 13. Donc c'est un long passage, mais qui est plein de péripéties et passionnant à lire. Je vais juste vous le résumer en pointant les miracles que Élisée a fait par ses prières. Il a séparé l'eau du Jourdain pour traverser à sec. Il n'y avait pas de pont, et voilà. Il a préféré passer à sec grâce à sa prière. Il a purifié l'eau de la source de Jéricho avec du sel. Méthode curieuse, mais ça a marché. Un peu troublant, il a maudit les jeunes qui se moquaient de lui, le prophète de l'Éternel. Et ces jeunes sont morts, dévorés par des ours. On ne comprend pas trop cette prière, mais on y reviendra. Il a fourni dans le désert de l'eau pour les armées d'Israël et de Juda qui étaient en guerre contre Moab. Il a multiplié l'huile de la veuve. Il a promis à la Sunamite stérile qu'elle accoucherait d'un garçon. Plus tard, ce garçon, mort de maladie, mort brutalement, Élisée lui a rendu la vie. Dans l'école des prophètes, le potage du soir était vénéneux, mais il a réussi, par sa prière, à le rendre comestible. Il a nourri 100 personnes avec seulement 20 pains, et il y avait des restes. Il a guéri Naaman, le lépreux syrien. Ça, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup aux enfants du groupe de CBJ. Et il a aussi maudit son serviteur et c'est lui qui a attrapé la lèpre du Syrien. Élisée a aussi fait flotter un fer de hache tombé dans l'eau en jetant à la surface de l'eau un petit bout de bois, et le fer est monté à la surface. Il a frappé d'aveuglement l'armée des Syriens. Il a annoncé la fin du siège de la ville de Samarie par les Syriens et la mort de l'officier du roi, qui a mis en doute sa prophétie. Il a annoncé la mort de Ben-Hadad, le roi de Syrie, et la prise de pouvoir par Hazaël, qui remportera la guerre contre Israël. Il a fait oindre Jéhu comme roi pour anéantir la dynastie d'Akab et de Jézabel. Oui, c'est vraiment impressionnant. Autant de miracles. Et pourtant, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. On le sait, c'est souvent le temps de l'Église. À la Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit descend sur les fidèles et que les miracles ont lieu. Mais non, déjà du temps d'Élisée, par sa prière, les miracles étaient abondants. C'est pourquoi on se pose la question, mais je vous parlais de la malédiction portée par Élisée à ces jeunes qui se moquaient de lui. Mais en fait, ces prières, c'est une prophétie qui annonce aussi le jugement dernier. On ne peut pas se moquer de Jésus, le Fils de Dieu. On ne peut pas se moquer de son prophète impunément. Tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus, qui auront blasphémé contre le Saint-Esprit, seront condamnés. Cette prière, qui est une malédiction, c'est vrai, contre les enfants, mais en fait, c'est prophétique. C'est pour nous préparer au jour du jugement et pour nous mettre en règle avec Jésus et avec Dieu. Il y a une autre prière prophétique dans Marc chapitre 11. C'est Jésus qui maudit le figuier qui ne portait pas de fruits. Instantanément, il a séché. Le lendemain matin, je vous lis cet épisode, Marc 11. En passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. C'est une promesse, n'est-ce pas? Mais il y a une condition. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Cette prière de Jésus est prophétique. Si vous ne pardonnez pas, votre prière est vaine, et vous ne serez pas exaucé. Et de plus, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos fautes. Si vous ne portez pas de fruits, vous serez jeté dans le feu du jugement. Cela peut paraître dur comme parole, mais ce n'est pas les miennes, cela vient de Jésus. C'est Jésus qui nous alerte. Donc, je peux prier avec foi, mais avant tout, je dois être en règle avec mes frères et sœurs. Jésus a aussi prié pour la résurrection de Lazare. C'était aussi une prière prophétique qui annonçait la victoire sur la mort. Il y a des prières de foi. Jésus nous invite à avoir foi. Nous avons cet exemple de la prière pour les malades avec l'onction d'huile, tel que c'est enseigné dans Jacques chapitre 5. Et en effet, nous le croyons, Jésus a porté sur la croix toutes nos maladies. On cite souvent Ésaïe 53 pour le signifier. Et c'est par sa grâce que nous sommes guéris. Et pourtant, il est vrai que certains sont guéris miraculeusement, instantanément. On en a des témoignages régulièrement. D'autres, malgré cette prière de la foi, doivent patienter jusqu'au jour décidé par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'ils n'ont pas la foi ? Non. Cela veut dire que Dieu exerce notre patience, mais cela ne doit pas nous faire douter. Certains jugent rapidement et disent « Mais puisque tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas la foi. » Ou « C'est que tu as péché. Demande pardon à Dieu et il te délivrera. » C'est ce qu'on peut lire dans tout le livre de Job. Les amis de Job sont là à critiquer Job qui refuse de demander pardon. Ce serait tellement simple. Demande pardon et tu seras guéri. Mais nous savons que Dieu nous aime et il nous le promet. Il ne nous donnera pas une pierre si nous prions pour avoir du pain. Donc il sait ce dont nous avons besoin, mais parfois nous ne le recevons pas tout de suite. Pensez aux héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, ce n'est pas mis en doute dans le texte. Ces gens avaient la foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ça nous interpelle, ça m'interpelle. Et oui, la foi, c'est cela, espérer ce qu'on ne voit pas. Mais pourtant, humainement, lorsque je ne suis pas exaucé tout de suite, je me pose des questions. Et c'est alors là que je dois redoubler de foi et garder les yeux tournés vers Jésus. Alors, tous ces exemples de prière, mais comment formuler sa prière ? Jésus nous a donné un très bon exemple dans Matthieu chapitre 7 par le Notre Père. Ça nous aide à structurer notre prière. Mais attention, ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une prière automatique. Certains utilisent un chapelet, un collier avec des perles, et il y a des grosses perles, des petites perles, et à chaque perle, hop, ils passent et ils récitent une prière. Et ils peuvent faire ça pendant des heures et des heures. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Les prières automatiques ne servent à rien. Il y a même des petits malins, des bouddhistes, qui ont inventé des moulins à prière. Comme ça, ça prie tout seul pour eux, c'est automatique. Le vent souffle dedans et ça prie automatiquement. C'est super, non ? Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est pareil, lorsque nous sommes invités à prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas parce que je prononce et que je dis au nom de Jésus 15 fois dans ma prière que ça va mieux marcher. Par contre, si je prie au nom de Jésus, ça veut dire si je me mets à sa place, j'imagine, mais dans cette situation que je vis, mais que ferait Jésus ? Que ferait Jésus à ma place ? C'est cela, prier au nom de Jésus. Jésus nous a enseigné que nous pouvons prier pour la nourriture et le vêtement. Et nous avons même la promesse que Dieu prend soin de nous. Dieu sait que nous en avons besoin, mais c'est à nous aussi de ne pas tomber dans le luxe et la surabondance. Par exemple, si j'ai besoin d'un manteau, bon là c'est vrai que c'est plus la saison, mais bon, encore que. Voilà, si j'ai besoin d'un manteau, au début de l'hiver, je vais dans un magasin, je vois un super manteau à 1000 euros. Bon, et puis à côté, un manteau un peu plus simple, mais suffisamment chaud, à 200 euros. Lequel choisir ? Ou si j'ai besoin d'un téléphone, voilà, je peux avoir envie d'acheter un téléphone à 1500 euros, voire plus, par le goût de la mode, de la high-tech. Mais finalement, un téléphone à 100 ou 200 euros, ben, ça téléphone, il y a le GPS et il y a même les réseaux sociaux dessus. Donc, je peux acheter l'objet le plus cher et ensuite, si j'ai plus assez d'argent pour remplir le frigo, ben, je vais prier Dieu. « Ah, Dieu, j'ai besoin de nourriture !» Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'apôtre Paul qui nous encourage au contentement. En particulier dans Philippiens chapitre 4. Le contentement, ça ne veut pas dire renoncer aux biens matériels. Mais ça ne veut pas dire non plus faire vœu de pauvreté. Mais ça veut dire tout simplement se contenter de ce que l'on a et donc d'une consommation raisonnable. Oui, donc formuler sa prière, c'est ça. On a des exemples et nous devons le faire au nom de Jésus. Ça veut dire nous mettre dans l'état d'esprit de Jésus pour exprimer nos prières. Quelle sorte d'application pouvons-nous imaginer, prévoir pour ces prochains jours ? On va rentrer à la maison à midi. Peut-être qu'on va oublier cette prédication. J'espère que non. Mais je vous encourage, lundi, mardi, à mettre en application cette règle de prier sans cesse. Ce qui est important, parce que, en tout cas, moi, je suis oublieux, je note les prières que je fais et lorsqu'il y a exaucement, je le note. Ça me permet, parfois les exaucements ne viennent pas tout de suite. Voilà, parfois c'est des mois, des années. Et donc ça permet de remercier Dieu, de se souvenir, ah oui, j'avais prié pour telle chose, et après 6 mois, 1 an, voilà, ça arrive, merci Seigneur. Et c'est ainsi que ma foi peut grandir. Et ça me permet aussi de patienter lorsque la réponse n'arrive pas tout de suite. Je peux relire mon journal de prière, persévérer dans la prière, dans l'attente. Et lorsque je manque de foi, lorsque je doute, je peux revenir sur les exaucements que j'ai déjà vécus et ne pas douter pour les prières qui sont en attente. Oui, Jésus a répondu à ma prière et cela renforce ma foi. Prier, lire la Bible, la parole de Dieu, mais aussi obéir et mettre en pratique. Ça, c'est une très bonne application. Ça marche ensemble. On ne peut pas prier, réciter le Notre Père, sans lire la Bible ou sans obéir, sans mettre en pratique. Ça ne sert à rien. Alors, prier, c'est aussi prendre du temps calme avec Dieu et de préférence dans sa chambre. D'autres vont dans la forêt. Voilà, mais je me déconnecte des réseaux sociaux, je m'isole du bruit, le bruit du monde. Et c'est ainsi que je fais silence devant Dieu pour écouter sa voix. Et j'y suis encouragé par ce texte de Deutéronome, chapitre 6, au verset 4. « Écoute, Israël !» Je répète, « Écoute, Israël !» L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront une marque comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Ces quelques versets, moi, je les ai toujours trouvés admirables. Et cette semaine, j'étais encore plus émerveillé, parce que grâce à tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, il y avait un commentaire sur le mot « écoute ». En hébreu, « schéma ».« Schéma Israël »,« écoute Israël ». Ce mot « écoute », »,« schéma », veut tout aussi bien dire « écoute » et « obéis ». En hébreu, c'est le même mot. En français, on a deux mots, « écoute ». Il y en a qui écoutent mais qui n'obéissent pas, et voilà. En hébreu, c'est le même mot. Quand on dit « schéma », c'est « écoute et obéis ». Et donc, Dieu attend plus qu'une écoute passive. Quand ma femme me parle, je sais que j'écoute, mais bof. Après, elle me redemande, mais ben, j'ai tout oublié. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il faut une écoute attentive, suivie de notre obéissance. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, prier, c'est ça. Apprendre à écouter Dieu, une écoute active. Dieu parle tantôt par un verset, tantôt par un rêve, une pensée, une conviction intérieure. Et ça, je l'expérimente régulièrement. Plus on écoute Dieu et plus on met en pratique par l'obéissance ce qu'on a entendu, et plus on entend Dieu nous parler. En fait, nos oreilles spirituelles sont plus sensibles. Par contre, si on ne met pas en pratique ce qu'on a entendu, alors, peu à peu, nos oreilles spirituelles se ferment et on n'entend plus rien. C'est l'obéissance qui règle le volume de nos oreilles spirituelles. Avec obéissance, j'entendrai mieux. Si je ne mets pas en pratique, au bout d'un moment, le Saint-Esprit ne parle plus. Alors, terminons par la dernière prière de la Bible. C'est dans Apocalypse 22. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oui, que cette prière se réalise. Amen.